Ça marche-tu?
Allez, on peut commencer.
Oui, bien sûr.
Ok. Alors, ce que j'aimerais vous présenter à l'occasion ce 14 juillet, c'est une bonne journée pour révéler certaines vérités sur la question de la France et surtout sur le moment décisif qui a lieu en France en juin 1789 et qui a fait un changement axiomatique pour le meilleur, mais qui a été par la suite détruit par les Britanniques et en alliance avec les Martinistes de Lyon. Et vous connaissez plus ou moins les grandes lignes du reste parce que Lynn les a parcourues à plusieurs reprises. Donc juste pour vous situer historiquement, la question de la Bastille et de la violence purgative qui a eu lieu à ce moment-là était lancée par les Martinistes de Lyon, les premiers synarchistes, si on peut les appeler comme ça, mais ils ne s'appelaient pas comme ça encore, ça viendra un peu plus tard. Mais je pense à Cagliostro, Mesmer et compagnie, avec toute la franc-maçonnerie britannique de William Pitt, le chef des armées, de Lord Shelburne, de Jeremy Bentham, et aussi des amis de Cagliostro, Golden, qui était le fameux Golden Riots, qui avait soulevé un scénario en 1780 à Londres pour détruire des prisons, et qui devait servir de prétexte et de modèle pour la Bastille, la prise de Bastille. Bon, moi, ce que je veux faire, ce ne sera pas l'histoire de la prise de la Bastille. Vous connaissez sans doute ce qui s'est produit à ce moment-là. Ce que je veux faire, c'est précisément passer directement à la question de la découverte d'un principe, le principe de la souveraineté, qui est un principe très important pour la France et qui est très important pour le Canada aussi. La question de la souveraineté nationale a vraiment été soulevée et établie en France avec Jean-Sylvain Bailly, avec Lafayette et un groupe de sympathisants de Benjamin Franklin, les amis de Benjamin Franklin à Paris. Et ce que je voudrais faire ce soir, c'est une espèce d'expérience sur la découverte de ce visionnaire Jean-Sylvain Bailly, qui est très peu connu et qui est mal connu très souvent parce qu'il l'est connu, et la création de l'Assemblée nationale de la France, la première Assemblée nationale. Et je voudrais le faire de manière à ce que vous puissiez comprendre comment on fait une découverte de principes en histoire. Lynn constamment revient sur la question de la lecture historique, vous faites vous-même des travaux en histoire, et très très souvent, on se sent perdu parce qu'on ne sait pas tout à fait comment traiter la question des principes universaux en histoire. Et là, il y a l'établissement d'un principe réel qui est extraordinaire, qui est très vivant et qu'on doit traiter d'une manière vivace et non pas d'une manière mécanique, d'une manière dynamique, comme dit Lynn, parce que c'est vraiment une question, ça montre la question du pouvoir et du pouvoir qu'ont les individus d'établir des institutions pour les hommes, et des institutions durables. Et c'est dommage que ce qu'a créé Jean-Sylvain Bailly, n'a pas que duré plus que 2 ans, parce qu'à 2 ans après, ils ont refoutu tout ça à l'heure, ils ont recréé une nouvelle constitution, et ensuite la France a eu 12 constitutions, à la suite l'un après l'autre, jusqu'à temps que De Gaulle, en 1956, réétablisse le principe que Bailly avait établi au début, avant même de la Révolution, et c'était pas une constitution révolutionnaire, c'était une constitution qui devait faire passer de la monarchie à la monarchie républicaine. Tout simplement, sans désordre, sans un coup de feu. Il n'était pas nécessaire d'avoir une révolution du tout. Et ça, il y avait un arrangement qui avait été fait avec Jean-Sylvain Bailly et Benjamin Franklin, qui étaient à Paris, qui étaient à Passy, et qui visitaient Jean-Sylvain Bailly de temps à autre. Il est rapporté qu'en 1777, c'était la première visite, la seule qui a été rapportée dans les annales. Mais il faut croire qu'il y a eu d'autres rencontres entre 1777 et 1789 ou 93, qui a été l'année de la mort, en novembre 93, de la mort de Bailly à la guillotine. Bon, bref, le point sur lequel j'aimerais que vous vous concentriez, c'est sur les 5 étapes de la constitution de l'Assemblée nationale à Paris, qui a lieu en quelques jours, du 17 juin au 20 juin 1789. Ce sont là les journées de gloire. Lorsqu'on parle dans la Marseillaise, le jour de gloire est arrivé. Eh bien, le jour de gloire est arrivé, ce n'est pas le 14 juillet, c'est le 20 juin 1789. Et j'aimerais qu'on se retrouve l'année prochaine, le 20 juin, pour refaire quelque chose aussi sur la France. Alors, j'entame directement la façon dont Jean-Sylvain Bailly a approché cette question de la création d'une nouvelle institution qui a été nommée et qui s'est nommée elle-même l'Assemblée nationale. Rapportez-vous de façon vivante, voyez donc de manière imaginaire dans votre esprit, reportez-vous en France il y a 200 ans vers 1786. Bailly avait été invité chez le maréchal de Beauvau, qui était un des premiers notables qui avait été approché par le roi Louis XVI pour discuter de la possibilité de mettre sur pied les états généraux, parce qu'il y avait des troupes. Et il y avait bien des troupes, sûrement, parce qu'en 85, l'année d'avant, il y avait eu l'éclatante opération britannique du fameux collier de Cagliostro, le collier de la reine. J'ai écrit un long rapport là-dessus dans une série de livres que j'ai envoyé à Jean-Philippe et à quelques autres. Vous pouvez les consulter, ça s'appelle la synarchie. Synarchy Movement of Empire. Il y a 4 livres et la question dont on parle maintenant est traité dans le premier livre qui s'appelle Le Beastman Bonaparte. Alors, reportez-vous à l'année 85-86, il y a une pénurie de grains et de nourriture dans Paris qui est artificielle, qui est créée de toutes pièces. Ah, les spéculateurs, en particulier Necker, Jacques Necker, qui n'est pas encore au ministère, mais qui va venir bientôt au ministère des Finances. Il y a le duc d'Orléans qui va bientôt se nommer Philippe Égalité et un nombre d'autres banquiers qui spéculent sur les grains parce que les Britanniques, en particulier Jeremy Bentham et William Pitt et quelques autres ont décidé de lancer une opération en France pour empêcher à tout prix la mise sur pied d'un gouvernement de type américain, ou qui serait inspiré du type américain. Hein? Et ils le savent très bien que Lafayette est là, il recrute depuis 1776, Bailly est là, et beaucoup d'autres qui se rassemblent et qui discutent de la possibilité de se lancer dans des élections et avant même de se lancer dans des élections, de se placer de façon à ce que les états généraux les choisissent. Alors Lafayette aussi bien et d'autres du côté de la nobilité, vous connaissez les états généraux. Les états généraux, c'est en trois parties. Il y a la représentation, et ça c'est dans la tradition française depuis un millénaire, qu'à chaque fois qu'il y a des troubles financiers et autres, le roi fait appel aux états généraux, et ce sont des représentants des trois grands groupes de la société française, la noblesse, le clergé et le tiers-état, ou les communs, hein, les gens comme vous et moi. Bon. Alors, Bailly, lui, est choisi par ce notable Beauvais comme étant directement celui qui va être à la direction des états généraux du côté du tiers si le roi décide de lancer des états généraux. Alors, en 86, donc 4 ans avant la prise de Bastille. Voici ce que dit dans ses mémoires Lancelot Bailly. Il dit: je prévis un grand événement, un changement dans l'état des choses et même dans la forme du gouvernement. Je ne prévis point la révolution telle qu'elle a été, et je ne crois que nul homme n'a pu la prévoir. Mais le déplorable état des finances appuyait suffisamment ma conjecture. Le besoin d'argent rendait le gouvernement faible et dépendant. Les gouvernés avaient alors un avantage énorme dont je présumais que l'on serait assez avisé pour en tirer parti. Cette assemblée de 150 citoyens de toutes les classes, hein, c'est ça qu'il prévoit, il prévoit là une assemblée de 150 citoyens de toutes les classes, il est plus distingué, occupé des plus importantes affaires de l'État, ne pouvait manquer d'y opérer une grande réforme. Cette assemblée, cette réunion, était une figure de celle de la nation. Ah, c'est très beau, ça. Il voit déjà une assemblée, une institution qui est un microcosme de l'assemblée de tous les citoyens de France, de 24 millions d'habitants. Donc, il voit l'un dans le multiple. Voyez ça comme un paradoxe, ça. C'est un paradoxe qui commence à introduire que l'assemblée aura une fonction de résoudre le paradoxe de l'un et du multiple, du paradoxe ontologique que Platon décrit largement dans le Parménide. Hein? Alors il dit, l'assemblée, cette réunion, était une figure de celle de la nation. C'était des citoyens délibérants, moins sur les affaires de l'État que sur leurs propres intérêts. Regardez donc, remarquez les mots, hein, c'est très important, non pas délibérer sur les affaires de l'État, mais sur leurs propres intérêts. C'est-à-dire, vanne derrière ces mots. Il faut pouvoir lire entre les mots pour voir ressortir ce sens. Hein? Alors il dit, depuis un nombre d'années, les meilleurs esprits avaient tourné leur méditation sur l'économie politique. Alors, dès qu'on entend parler du mot économie politique, à ce moment-là, en Europe, ça veut dire Leibniz. C'est assez. Hein? Il n'y a personne qui parle d'économie politique si ça ne réfère pas à Leibniz. C'est Leibniz qui a inventé le terme économie politique. Alors, autrement dit, il annonce déjà que l'Assemblée sera dans l'esprit de Leibniz. Hein, la poursuite du bonheur que Leibniz a inscrit dans la Constitution américaine. Je continue. Et l'Assemblée convoquée pour donner des avis et des lumières sur l'administration du royaume devait naturellement réunir tous les esprits sur ce point et porter l'attention de la nation entière. Or, car après un long sommeil, ou plutôt après une absence, on vient à songer à ces affaires que l'on trouve fort délabrées. Il est difficile d'oublier qu'on a le droit d'y mettre en ordre. Je prévoyais donc non une révolution, mais un changement qui, sans en pouvoir déterminer l'espèce, devait être à l'avantage de la nation. Voilà, l'avantage de l'autre. Principe de la bête des salis. On y est. Hein? Parce que dans un siècle de lumière, il dit, on appelle la raison à son aide, la raison doit finir par être la maîtresse. Voilà, 4 ans avant le début de la Révolution française, c'est Jean-Sébastien Bailly qui fait ça, qui arbore d'abord le microcosme de d'une Assemblée nationale, et ensuite qui l'annonce que cette Assemblée nationale sera une fonction de l'avantage de la nation, ou l'avantage de l'autre. C'est bon ça. C'est déjà dans l'esprit de Benjamin Franklin. Hein? Et c'est ça qui va se mettre à travailler, il va se mettre au travail lui-même, il va recruter un nombre assez considérable d'alliés, et au moment de la crise de 1789, il sera en position de placer le groupe du tiers bien devant les autorités apparentes de la noblesse et du clergé. Alors, je parle des étapes, il y a la constitution des états généraux, le roi les fait demander, ils se mettent en assemblée, ils se mettent à discuter, ils se regardent les uns les autres, et ensuite, en privé, ils travaillent, et ensuite, ils viennent en plénière. Et le 17 juin, marquez ça, le 17 juin 1789, c'est le plus grand jour pour Bailly. Il dit lui-même dans ses notes, dans ses mémoires, et il écrit toutes les mémoires, hein, il est à la tête du tiers état, et tous les soirs après les débats, les discussions, il entre chez lui, et il rédige, il va dormir à 4h du matin, tant qu'il n'a pas fini, parce que le lendemain c'est encore une autre activité, il a peut-être tout un livre à rédiger. Alors il n'arrête pas, hein, durant la journée, il met sur pied les idées avec ses collègues, et le soir, il articule dans un langage cohérent, mais dans un langage qui est très vivant, et qui fait transparaître, c'est ça son rôle, c'est de faire transparaître la découverte de principe qu'il fait. Et c'est pour ça que je vais vous lire un bon nombre de ces textes, parce que je veux que vous perceviez la découverte de principe telle qu'elle qu'elle s'avance, qu'elle débute. Hein. Il y a quatre points. Je vais vous donner quatre points. Notez les points de façon, disons, discrète sur un bloc-notes, quelque chose comme ça, et revisez ça un peu plus tard, enfin, en groupe, hein, pour les regrouper de façon cohérente. Hein. Il y a cinq points, non pas quatre points, mais cinq points. Un, c'est l'acte de la constitution de l'Assemblée nationale. Deux, c'est seule l'Assemblée nationale peut déclarer la volonté de la nation. Trois, l'Assemblée nationale, c'est la dissolution des trois États. Quatre, l'Assemblée prend la responsabilité du crédit public. Et cinq, tout vient culminer au serment du jeu de paume le 20 juin. Ok, je vais passer chacun de ce point. L'un après l'autre.
Pierre, on dirait juste que tu me répètes les points que tu as notés.
Ok, je vais les répéter, je les reprends. Un, l'acte de constitution de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous devez vous imaginer vous-même être un député au Québec en train de légiférer sur l'établissement d'une véritable république au Canada. Pas au Québec, au Canada, hein? Le pays en entier. Et c'est là-dessus que vous devriez réfléchir. C'est ça votre avenir. Demain, le Canada sera plus un satrapie de la Grande-Bretagne. Comment? Ça marchera plus, ça. Hein? Et vous aurez la responsabilité de retrouver ces principes fondamentaux qui font qu'on puisse établir une Assemblée nationale. Alors, un acte de constitution de l'Assemblée nationale. Deux, seule l'Assemblée déclare la volonté de la nation. Ça, c'est la souveraineté. Hein? Seule l'Assemblée nationale déclare la volonté de la nation. Ça s'exprime par la souveraineté de l'Assemblée. Et trois, dans le cas de la France, les trois États généraux en sont dissous. Et numéro 4, l'Assemblée prend la responsabilité du crédit public. Et 5, le serment du jus de paume le 20 juin. Et ça, c'est le jour de gloire. Le jour de gloire est arrivé. C'est le punctum saliens, comme dit Hengel. Hein? Et les ennemis le savent, ils le voient. Alors tout ça, ça commence, c'est daté, et c'est daté de manière unique. Hein. C'est quand l'un dit que certains événements historiques doivent être localisés historiquement, hein, sont historiquement fichés. Il y a des moments qu'on ne peut pas changer dans l'histoire, on ne peut pas se déplacer, et ça c'est un moment spécifique de l'histoire, qui ne peut pas se reproduire nulle part ailleurs de la même façon. Alors le mercredi 17 juin, Sylvain Bailly écrit dans ses mémoires: je vous enverrai une copie écrite des mémoires, du moins de ce que je cite, hein, je vais vous citer, comme ça vous aurez l'occasion de parcourir avec plus d'attention. Il dit, au début du 17 juin, c'est sa première remarque, il dit: ce jour est à jamais mémorable. C'est celui de la constitution de l'Assemblée. C'est celui où elle a annoncé les droits de la nation, où elle a montré pour la première fois la contenance ferme et sage qui convenait à ses représentants et aux dépositaires de son autorité. Mirabeau travaille déjà avec le duc d'Orléans chez les Anglais. Il est vendu complètement chez les Anglais. Et Barère de Vieux-Sac est l'agent principal de William Pitt, le jeune, William Pitt the Younger, qui deviendra le directeur des armées, et qui financera tous les agents britanniques qui sont en France durant la terreur. Et Barère sera le principal membre de l'Assemblée nationale à l'intérieur qui va manipuler Barras, Marron, Robespierre. Robespierre sera duc, finalement. Hein? Et c'est de la Grande-Bretagne que l'idée de terreur et de la guillotine a été importée. Et c'est Barras de Vieux-Sac qui va faire ce travail-là. Alors, il ne sait pas, il ne les connaît pas, il est naïf, il est tout neuf, il est jeune, il a 53 ans, il n'est pas politicien, il n'a pas fait de travail d'intelligence ou de contre-intelligence comme nous on fait. Il est astronaute, il est un scientifique, il est philosophe. Il s'intéresse, il a passé presque toute sa vie à faire des expérimentations en astronomie et en astrophysique. Et tout à coup, il se retrouve dans la responsabilité de devenir le président de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas encore, hein, il est là, il n'est pas encore président, il est président du tiers. Hein? Alors, ce qui se produit, c'est que graduellement, il y a une espèce de rapport de force qui se fait à l'intérieur de l'Assemblée nationale, où chacun tire de son côté pour voir qui va pouvoir manipuler qui. Et Bailly est très ferme. Il dit d'abord les délibérations qui sont conformes aux motions que l'Assemblée aura adoptées ne seront pas signées, parce que c'est demandé, il y a Seyès, Mirabeau, Vieux-Sac qui demandent, il faut signer, il faut donner les noms, et lui il dit non, et vous verrez pourquoi, hein, il dit on ne veut pas mettre les signatures. Ben, écoutez bien attentivement ceci, parce que c'est comme ça que le nœud du paradoxe ontologique, hein, de l'un et du multiple, est résolu par Bailly. Il dit, si l'on considère ces signatures comme émanées de volontés particulières, d'où résulte le vœu général, elles ne font qu'affaiblir l'expression de ce vœu. Vous voyez ça? Je répète, si l'on considère ces signatures comme émanées de volontés particulières, d'où résulte le vœu général, comme si le vœu général était la somme des volontés particulières, elles ne font qu'affaiblir l'expression de ce vœu. En effet, il dit, lorsqu'il a été constaté par la majorité, les volontés particulières sont évanouies. Oh là là! C'est un bon problème, ça. Hein? Je répète, en effet, lorsque il a été constaté par la majorité, les volontés particulières sont évanouies. Il est la volonté de l'Assemblée ne doit être revêtu que de la signature du président. Pour en établir l'authenticité, l'Assemblée parle, signe et s'exprime toujours par son organe, son président. Des signatures privées ajoutées à la sienne la confondent avec elle. Alors, on ne voit plus le vœu d'une assemblée dans sa totalité. C'est celui d'un nombre de particuliers réunis. Si l'on considère ces signatures adaptées aux motions comme preuve de leur adoption, comme gage des opinions, et peut-être des intentions et des sentiments dont deviennent le plus grand danger. Elles ôtent nécessairement la liberté au faible. Elles perpétuent les divisions d'opinion, tracent une ligne de séparation qui établit des partis. Elles favorisent les soupçons, les calomnies. Et elles peuvent livrer les gens d'un parti bon, mauvais ou indifférent aux intrigues et aux fureurs de l'autre parti. L'Assemblée adopta mon avis à la grande pluralité et décida que la délibération qu'on allait prendre serait seulement signée du président et de ses secrétaires provisoires. Alors là, je vous laisse un moment de réflexion, là. Parce que s'il y a des questions, si ça soulève des questions, je voudrais les entendre maintenant. Et si on n'a pas, on va continuer. Je lui donne simplement une pause. Parce que là, je viens de parler d'un point tournant. Il y a eu un point tournant, là. Et si vous ne l'avez pas vu, vous avez manqué quelque chose. Alors, il va falloir y revenir d'une manière ou d'une autre.
Il y a
une chose très, très, très spéciale qui s'est passée, là. Et c'est la résolution du problème du paradoxe ontologique.
Pierre, pourrais-tu brièvement négatifier le paradoxe de ça pour faire sûr que les gens sont bien au courant de la chose?
Un tout est toujours plus grand que la somme de ses parties. Un tout n'est pas, ne peut jamais être la somme de ses parties. Autrement dit, tous les membres de l'Assemblée n'ont pas individuellement, l'un après l'autre, le pouvoir législatif qu'a l'Assemblée comme totalité, comme unité, comme institution. Et c'est pour ça que les individus à l'intérieur d'une Assemblée, leur volonté particulière doit s'évanouir dans l'unité de l'Assemblée. C'est le vœu général de l'Assemblée qui l'emporte. Et c'est pour ça qu'il dit, si les signatures particulières, les volontés particulières expriment le vœu général, alors ça va faillir, ça ne va pas marcher. Il y aura de la dissension, il y aura des calomnies. Il y aura du favoritisme, il y aura du parti pris, il y aura des factions. C'est un problème qui n'est pas facile à résoudre, hein, mais il faut y réfléchir. C'est ce qui montre que l'État-nation est supérieur à une agglomération de provinces ou d'États. On se demande souvent, mais pourquoi une nation? Qu'est-ce qui fait une nation? Pourquoi pas avoir un one world, hein? Un gouvernement mondial qui s'occupe tout simplement de petites parties. Bon. La nation a unité, a une unité est une expression de souveraineté qui peut être et qui doit être exprimée par chaque individu, mais qui ne peut être et n'est en fait exprimée que par le président de l'Assemblée. Lorsqu'il y a eu des délibérations, alors c'est pas les signatures adaptées à la motion principale qui doit avoir priorité. Toutes les idées particulières doivent se dissoudre et c'est le président qui doit restituer l'esprit de l'Assemblée dans son enfant. Le vœu de l'Assemblée est une unité supérieure à la totalité des membres de l'Assemblée.
Ce n'est pas donner trop de pouvoir au président, ça?
Alors ça, ça a tellement impressionné les trois ordres.
Oui, un instant, une question.
C'est presque perdu à jamais. Je suis pas sûr que Est-ce que ça donne trop de supériorité au président? Je sais pas. Je crois pas, parce que l'Assemblée n'est pas constituée encore. Ils n'ont pas encore constitué l'Assemblée. Dans une minute, après avoir répondu à quelques-unes de vos questions, vous verrez comment l'Assemblée s'est constituée. Mais à ce moment-là, du 17 juin au matin, la façon dont le vote allait être pris, Pailly a eu la sagesse de dire non et d'expliquer que les signatures qui seraient adaptées à différentes positions et adoptées pour différentes motions viendraient briser l'harmonie et l'unité de l'Assemblée nationale.
Yeah.
Alors il faut chercher dans l'Assemblée nationale
pour
de plus en plus d'unité, même si on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on s'abstient. Moi, le vote d'abstention est important. C'est pas une négation. C'est pas un non. C'est l'abstention.
Bien.
Il y a eu beaucoup de votes comme ça que Carnot, par exemple, devait s'abstenir parce qu'il y avait horreur de ce qui se produisait. J'ai pas compris encore pourquoi il avait donné son vote, son assentiment pour guillotiner Louis XVI. Ça, je n'ai pas compris. Et ça, je ne l'ai pas digéré non plus. Enfin. Mais oui, c'est... Regardez, ne regardez pas ça du point de vue de mes sentiments personnels. Voyez qu'il est en train de se produire une institution nouvelle qui n'existe pas en Europe. Pour la première fois, ils sont en train de mettre sur pied un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Bien.
Ça, c'est très beau, oui.
Bien, je sais qu'à cette époque-là, c'est différent d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est comme, on est un électorat, on choisit un député qui va être un représentant à l'Assemblée, et justement, pour se faire une idée de notre député, on regarde qu'est-ce qu'il a voté sur différentes questions, justement, et... C'est un principe. Comme citoyen, on veut, on se tient au courant des questions de...
Oui, mais dans le monde parlementaire qui existe aujourd'hui, c'est des questions, la façon dont c'est formulé, c'est complètement biaisé et faussé. L'Assemblée nationale à Québec n'est pas le meilleur exemple à donner au monde aujourd'hui, ok?
D'accord.
Le Sénat américain, depuis que Larouche est là, oui. Parce que le problème, c'est que l'attitude des voteurs, c'est de dire, ah ben moi je vais voter pour ce sénateur-là parce que c'est lui qui m'a promis de paver notre rue. Ah, ou de mettre un système de vidange amélioré. Alors c'est mon homme. Parce qu'ils veulent avoir des croûtes. Ah, donnez-moi des croûtes. Ah. Il faut maintenant repenser tout ça et mettre des individus au pouvoir qui ont des principes, qui sont orientés sur 50 ans à venir. Donne-moi quelqu'un à l'Assemblée nationale à Québec qui a une conception orientée sur les 50 prochaines années. Là-bas. Alors il faut changer le gouvernement. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour changer les choses. Ces choses-là ne marchent plus. Le système ne marche plus. Le système parlementaire ne marche plus.
Mais bien.
Alors, il faut revisiter les principes. Il faut retrouver les principes. Oui.
Ben, je vais continuer de réfléchir à ça, mais je me dis, même dans les meilleures conditions, avec un électorat qui pense au niveau de principes, il y a quand même à régler les choses... au quotidien, si on veut. Et ou encore, s'il y a des décisions de principe qui sont prises, je veux dire, comme électorat pour choisir notre représentant, je trouve ça me...
Mais non,
ça
me représentant beaucoup. En fonction du support qu'il va donner à la louche d'ici il y a 2 ans. Sinon, tu perds ton vote, c'est pour rien.
Donc, on a...
Parce que la crise actuelle est telle que la population ne sait plus où donner de la tête. Et les politiciens sont les premiers. Ils ne savent plus quoi faire. Et aucun d'eux n'a un sens. Vous êtes les seuls à avoir un sens historique, critique, mondial de la crise actuelle. Vous êtes les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Alors, votre devoir, votre responsabilité, c'est la même responsabilité que celle de Bailly. Vous devez inventer un nouveau système. Au Québec, au Canada. Vous devez réviser ce qui a existé, ce qui a été de bon, ce qui a été une bonne base, et relancer à partir d'un principe d'une véritable souveraineté. Il n'y en a pas de souveraineté au Québec. Il n'y en a pas de souveraineté au Canada. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est la foutaise. C'est les banquiers qui mènent. C'est pas Hoffman. C'est pas Hoffman qui mène le Québec. Period. Il se gargarise à Ottawa. Je sais, il y a quelques années, j'avais régulièrement des meetings avec Sinclair Stevens à Ottawa, qui était ministre de la Défense à ce moment-là. Et Sinclair Stevens était très intéressé par la politique de Lazare de la Roche. Et c'était en 83, c'était à l'époque où Reagan avait donné son fameux speech du 23 mars 83. Et Sinclair était tout à fait étonné, il m'a rappelé le soir même du speech. J'étais en train de faire la sécurité à la maison de Lynn, c'est moi qui ai pris le téléphone, et c'est Sinclair qui est à la ligne. Et il dit, c'est ce que j'ai écouté, c'est ton homme, c'est vrai, c'est lui, c'est la rouge, c'est son truc. Oui, je t'ai toujours dit, pourquoi tu nous t'aimes? Hein? Et il voulait que le Canada trouve un moyen d'entrer dans cette nouvelle géométrie du Mutual Assured Survival, au lieu du MAD. Hein? Parce qu'il était contre Kissinger. Il était contre cette guerre froide interminable. Hein? Et bien, c'est ça qu'il faut faire. Voilà un individu qui est ministre. Et la seule façon d'approcher ce gars-là, c'est pas par le vote, c'est en le recrutant pour l'amener du côté de la rouge, qui est le seul qui a une solution à ce problème actuellement. Il y en a pas d'autre. S'il y en avait d'autres, vous aurez bien les connaître. Donc vous avez une numéro de téléphone, je les ai pris. Mais il y en a pas. Alors oui, c'est ça que Bailly est en train d'établir. Il est en train d'établir les conditions dans lesquelles une Assemblée nationale va devenir souveraine. Ok? Alors, je continue. Parce que le temps passe, il est déjà quoi, 7h30. On a encore du temps?
Oui.
Vous tenez encore une demi-heure?
Oui, tout à fait.
Ok. Alors, après ce débat, ils acceptent. Ok. Et il dit, bon, ben, l'Assemblée délibérante, après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette Assemblée a déjà composé, était composée par des représentants envoyés directement par les 96 centièmes au moins de la nation. Alors, il passe une résolution en disant, là, que dans la délibération, on vérifie les pouvoirs en commun. Pour réaliser que tous ceux qui sont ici présents représentent en fait 96% de la population. Alors ça a été assez enthousiasmé qu'ils ont accepté immédiatement. Mais ce qui a été fait en faisant ça, c'est qu'ils n'avaient pas, selon le vieil ordre, oui, ils sont en train de changer les actions là. Les actions étaient vous ne pouvez délibérer et vérifier vos pouvoirs que dans vos assemblées séparées. Et là, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils ont fait une vérification des pouvoirs dans l'ensemble de l'Assemblée. Oui, là. L'Assemblée se reconnaît comme représentant 96% de la population. Alors, Bailly écrit, et ça c'est dans les notes de l'Assemblée nationale, dans les archives, de plus, puisqu'il n'appartient qu'aux représentants vérifiés de concourir au vœu national, et que tous les représentants vérifiés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de conclure qu'il lui appartient et qu'il n'appartient qu'à elle d'interpréter et de présenter la volonté générale de la nation. Wow! Et tout le monde est d'accord. Les curés, les nonnes, les balayeurs, d'accord. Et ça continue. Et il dit ceci. Il dit celui qui... Le principe que tous les représentants doivent être vérifiés est incontestable. Et celui qu'ils doivent tous être dans l'Assemblée pouvait être contesté par les deux autres ordres. Mais il est dérivé du principe de la vérification des pouvoirs en commun qui ne peut être attaqué que par ceux qui mettent les préjugés à la place de la raison. Ce dernier principe admis, l'assertion qu'il appartient et qu'il appartenait à l'Assemblée de déclarer la volonté de la nation n'a rien de téméraire et est parfaitement bien fondée. Les hommes ne pouvaient pas dire « Nous sommes comme vous, les représentants de la nation. Nos pouvoirs ont été vérifiés comme les vôtres. » Tu ne pouvais plus dire ça. Alors, il conclut, il dit « L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présents et qu'ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle. La dénomination d'Assemblée nationale est donc la seule qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des choses. » Hein, ils viennent d'inventer là, le terme Assemblée nationale. Rien n'est inventé, là. Le 17 juin 1789. La dénomination, Assemblée nationale est maintenant acceptée. Soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentants légitimement et publiquement connus et vérifiés, soit parce qu'ils ont envoyé par la presque totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu'ils ont choisi, n'a le droit d'exercer ses fonctions séparément dans cette assemblée. Et ils votent. Autrement dit, ils ne retournent plus aux trois ordres. Et le roi ne sait pas. C'est l'Assemblée nationale qui est en train de décider de liquider les trois ordres. Et c'est les membres et c'est le clergé en même temps qui fait ça. Il y a présent là un des pires scabules, l'évêque d'Autun, Talleyrand, Saligor Talleyrand, qui est là. Et c'est probablement lui qui a voté contre tout ça. Qui est furieux. Et parce qu'il se rend compte que le clergé va tout perdre, la nobilité va tout perdre, et que ça va être une démocratie générale. Mais c'est déjà, oui, l'enthousiasme de la création d'une nouvelle institution nationale, patriotique, représentant le peuple. Ah, c'est cette idée de représentation qui commence à prendre naissance et qui va être détruite un an plus tard, qui aura des débats sans arrêt et qui vont aller jusqu'à à la guerre de 14 et la guerre de 1940. Sur la représentativité, ça n'existe pas, on ne peut pas se représenter quelqu'un d'autre, on représente que soi-même, ou on peut représenter un fou comme un avocat le fait, c'est ça que Joseph de Maistre, son argument, c'est que la représentation, c'est uniquement représenter quelqu'un qui ne peut pas être présent. Un fou ou un aliéné ou qui ne peut pas se prononcer, qui ne peut pas parler pour lui-même. C'est complètement débile, ils ont complètement effet. Il fait passer les choses parce que ça devient raisonnable. C'est la raison qui prime. Parce que personne n'a d'argument contre. C'est le pouvoir, et le pouvoir de l'Assemblée nationale inclut le roi. Elle ne va pas l'exclure, elle va l'inclure. Le roi fera partie de l'Assemblée nationale. Donc c'est une monarchie constitutionnelle qui s'établit. Vous voyez, là, l'œuvre commune, c'est vraiment l'œuvre de la régénération. Hein? Et ce qui se découvre là, c'est le véritable pouvoir, la volonté nationale, qui est représentée par l'Assemblée nationale. Et c'est ça qu'il s'agit de défendre. Ah, il ajoute, il dit, l'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein tous les autres députés aujourd'hui absents. Elle ne cessera de les rappeler à remplir l'obligation qui leur est imposée, de concourir à la tenue des États généraux. À quelque moment que les députés absents se présentent dans la session qui va s'ouvrir, elle déclare d'avance qu'elle s'empressera de les recevoir, de partager avec eux, avec la vérification de leur pouvoir, de suivre le grand œuvre et les grands travaux qui doivent maintenant procurer la régénération de la France. Et ici, les statuts, vive le roi. C'est pas bon, vive l'Assemblée nationale, vive le roi. C'est extraordinaire, ça. Et voilà la conclusion que tire Bailly. Il dit, je dois rendre une justice à cette Assemblée. Ah, il prend pas le crédit pour lui-même, c'est l'Assemblée. Mais il a été le principal instigateur, hein. Il dit, je dois rendre une justice à cette Assemblée. C'est qu'elle avait, dès lors, et en faisant ses premiers actes et ses premiers essais de son pouvoir, les principes sages de l'Assemblée nationale a eu depuis, dans ses plus bons moments, assez fortes pour penser comme l'Assemblée nationale dans le temps de sa plus grande puissance. Assez mesuré dans son courage pour ne pas avoir été plus loin qu'elle. L'Assemblée dit ici qu'elle opérera la régénération nationale de concert avec Sa Majesté. Elle ne pense pas que la nation, en recouvrant ses droits, dû faire perdre au roi les siens. C'est important, ça. Le monarque a eu longtemps toute l'autorité. C'était une usurpation que les circonstances, la nécessité et la succession des temps avaient amené. Et pour ainsi dire, légitimé. Mais dans une monarchie, le prince ne pouvait même abusivement exercer le pouvoir législatif que comme le représentant de la nation. Et c'est une qualité dont il ne pouvait être dépouillé. Il avait droit de concourir à la législation, et lorsque l'Assemblée nationale a donné au roi le veto suspensif, lorsqu'elle l'a déclaré le représentant héréditaire de la nation, elle a développé les idées dont les principes sont dans l'arrêt de ce jour. Enfin, l'Assemblée devenue active reconnaît aussi qu'elle doit ses premiers moments à l'examen des causes qui produisirent dans les provinces du royaume la disette qui les afflige et à la recherche des moyens qui peuvent y remédier, la manière la plus efficace, la plus prompte. En conséquence, elle a arrêté de nommer un comité pour s'occuper de cet important objet, les finances, et que Sa Majesté sera suppléée de faire remettre à ce comité tous les renseignements dont elle aurait besoin. Et la présente délibération sera imprimée et envoyée dans toutes les provinces. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met ça sur un flyer et il envoie ça partout à travers la France. Comme ça, il y a un optimisme extraordinaire qui est généré à travers la France et qui se dit, mon Dieu, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement à Paris, les députés sont là, l'Assemblée nationale a été créée, ils enlèvent l'autorité des crédits et des finances des mains des ministres, et ils prennent la responsabilité eux-mêmes. Et c'est ça la souveraineté, c'est prendre la responsabilité de la nation. Et c'est ça que vous devez faire, c'est ça que vous faites, c'est ça votre rôle, mon rôle, le rôle des membres de tous les comités d'ouvriers, c'est le rôle, c'est votre fonction. C'est prendre cette responsabilité-là. Et c'est dans ce sens-là que le pays réussit à amener tous les députés, deux jours plus tard, pour concrétiser le 19 juin, le 20 juin, ce qu'ils avaient proposé, le 17, et ce qui arrive, c'est la salle des petits pas, des pas perdus, des menus plaisir, c'est ça, c'est la ils avaient la salle des menus plaisir près du château de Versailles, et les portes sont fermées, verrouillées. Et le représentant du roi dit, non, vous ne pouvez pas entrer, le roi veut qu'on fasse l'aménagement ici pendant 3 jours pour préparer le speech du roi qui va avoir lieu le 23 juin. Et Bailly regarde ses députés et dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas se séparer. Et c'est là qu'ils se retrouvent tous au jeu de pomme. Ah, le fameux jeu de pomme, le serment du jeu de pomme, le 20 juin, ça a été parce que leur salle de délibération avait été fermée délibérément par le roi et par le ministre. C'est Naguère qui a fait ça, qui faisait tout ça en sous-sous, hein, parce qu'il voulait briser la volonté des députés, des représentants du peuple. Et ils ont dit non. Alors ils se sont rassemblés, et c'est ça ma conclusion, je vais vous lire tout simplement l'exposé qu'il a fait d'une façon extraordinaire. Vous avez vu dans la publication déjà Bailly debout sur une table dans la grande salle où il y a quelques centaines de députés. Et il se lève sur la table et il lit lui-même la première, la rédaction qu'il a faite lui-même du serment, qui dit ceci. L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. Arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de ne se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermi sur des fondements solides, et que le discernement étant prêté, tous les membres et chacun d'eux en particulier confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. Et là, ils ont tous accueilli, et ensuite, ils ont lu la déclaration, et ils ont signé, etc. Sauf ça. Il y en a qu'un qui, sur le portrait fait par, je crois, c'est, je viens plus, le peintre de la cour de l'époque, si vous regardez du côté droit au bas, il y a quelqu'un qui est assis et qui a la tête dans les mains. Et c'est Robespierre, c'est le seul qui n'a pas voté, qui n'a pas pris la déclaration. Et c'est justement le titre qui va être le principal instigateur à détruire ce mouvement de constitution de l'Assemblée nationale et du mouvement déjà lancé de la constitution du royaume. Alors, vous voyez, en bref, c'est ce qui s'est passé dans ces jours, donc du 17 juin au 20 juin 1789, c'est l'établissement d'un gouvernement pour le peuple, par le peuple, hein, pour la première fois en Europe. Ça s'est fait. On peut me dire ça s'est jamais fait, ça s'est fait. Il était là. Il a été détruit. Mais il a été constitué. Et c'est ça qu'il faut oublier. Il faut oublier surtout les principes et la manière dont ça s'est fait. Hein, le langage vivant de cette découverte. Parce que c'est une découverte. C'est une découverte de principe. C'est la découverte du principe de la souveraineté d'une assemblée qui est représentative de tous les membres de l'assemblée, de tous les membres de la société. Hein, qui n'est pas la création d'une assemblée de partis. C'est pas une partisanerie. Et ça a été tout à fait normal que cette idée, qui était tellement sublime, et qui a été manifestée de manière tellement sublime, a été acceptée par les deux autres ordres, qui ont dissous volontairement leurs propres ordres, pour entrer dans un ordre supérieur, hein, dans un pouvoir supérieur. Parce qu'ils ont réalisé que c'est une question de pouvoir. C'est pas une question d'intérêt, c'est une question de pouvoir au sens de Gauss, au sens de Platon, hein. Ils ont momentanément décidé de passer par-dessus leurs intérêts particuliers de classe pour se mettre à l'avantage de l'autre. Et ça a été le premier signe au moment de la Révolution française du retour au principe de Versailles. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous donner, comment la raison individuelle a pu devenir la raison commune. Alors, s'il y a des questions, je suis sûr qu'il y a des remarques. Allez-y.
Oui,
est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Ok, je voudrais savoir, j'ai une question concernant l'Assemblée nationale au Québec. Est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait éliminer ou enlever les partis politiques?
Non. Ce qu'il faut faire au Québec, c'est assurer que les membres de l'Assemblée nationale se portent la politique de la rouge.
Excusez, c'est parce que vous... c'est parce que ça devient un parti politique, ça aussi. Moi, je veux savoir, parce que l'Assemblée nationale est censée représenter le peuple, et ce qu'on voit au niveau des partis politiques, c'est chacun tire la couverture de son côté, et ces gens-là représentent un parti et non le peuple.
Alors, il faut aller à l'Assemblée nationale et représenter les idées que je viens de vous manifester, ou les idées de la rouge, directement, ouvertement. Parce que vous savez, ça ne va pas aller mieux au Québec. Ça va aller pire. Il n'y a pas de solution. La crise n'est pas une crise québécoise. Et ils savent pas au Québec, au gouvernement, comment traiter cette crise-là. Cette crise mondiale. Alors c'est notre responsabilité à tous les membres de cette organisation de la Roche. C'est notre responsabilité d'aller voir ces gens-là qui ont besoin de nous. C'est pas vous qui avez besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de vous. Et c'est ça l'avantage de l'offre. Le gouvernement a besoin de conseils. Il y a des conseillers. Il n'y a personne qui vous empêche d'envoyer une équipe de conseillers. À Ottawa ou à Québec. Hein? Autrement dit, il n'y a personne qui vous empêche d'agir comme le président du Canada. Que faites-vous? Ah, rappelez-vous la question que s'était posée De Gaulle au moment de l'invasion allemande en France en 40. Il était jeune, il était militaire, il était militant, et il savait que le gouvernement de la Troisième République allait éclater, il le voyait venir. Mais il voulait être dedans pour pouvoir sauver le gouvernement et le transformer. Et recréer une nouvelle constitution s'il le fallait. Il savait qu'il devait faire ça. Il l'a fait. Et il s'est fait nommer sous-ministre d'État par le Premier ministre Reynaud en juin 40. Et le 3 juin 1940, il écrit une lettre absolument extraordinaire à Reynaud, qui est une lettre qui démontre qu'il est en fait le président actif de la France. Avant même de quitter la France, il agit comme la Roche agit ici, même s'il n'est pas président. De Gaulle agissait comme un président de la France avant de partir en juin 40, avant de s'exiler en Angleterre, il agissait comme le président de la France. On lui a donné son vote uniquement après la guerre. C'est comme Larouche aujourd'hui. Il est le président actif qui détermine l'orientation du Congrès américain. Tout ce qui se fera au Québec, au Canada, en Europe, en France, en Allemagne, etc., n'a rien à voir avec la réalité si la situation à Washington n'est pas résolue de la façon dont Larouche est en train d'organiser le Sénat américain. Ça n'existera pas. Les assemblées nationales des pays sont des vols à poisson. Tous. Sans exception. Ils tournent en rond. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent vraiment pas quoi faire. Et les plus sérieux, là, vont demander conseil chez vous. Alors que dirait Larouche là-dessus? Comme Shakur Stevens me demandait il y a 15 ans. Que ferait Larouche là-dessus? Ils ont besoin de nous. Et c'est ça que vous devez découvrir en vous, que vous êtes des individus historiques mondiaux. Vous avez un rôle historique mondial à jouer. C'est ça. C'est une grosse responsabilité. Et c'est la seule qui soit.
Je veux savoir si, comme dans le cas de la Révolution française, une crise économique, une pénurie de nourriture avait lieu, si justement l'arrivée de certains concepts au pouvoir à travers des révolutions ou d'autres choses n'est pas dépendant un peu du contexte aussi. L'idée par elle-même peut émerger en dehors d'un certain contexte, si c'est pas possible.
Je suis pas sûr que je comprends ce que tu demandes.
Par exemple, les principes de Bailly, qui auraient pu être établis s'il n'y avait pas eu une situation de crise sociale ou une demande pour un changement politique. Au Canada, par exemple, la plupart des
gens... Ça ne serait probablement pas arrivé, oui. C'est ça que tu veux dire.
Ouais.
C'est que les circonstances ont fait que la solution devait sortir de la crise. C'est ça que tu veux dire?
Ouais, ben, par exemple, au Canada en ce moment, pour la plupart des gens, il n'y a pas de crise perceptible en soi. Ça pose la question, est-ce qu'il faut pas justement, est-ce que c'est pas justement l'idée de se préparer pour une ouverture en vue de l'arrivée d'une crise ou quelque chose, ou si on peut établir quelque chose, établir certaines idées, même si c'est pas une demande populaire, disons.
Mais je crois pas que c'est juste que tu dis qu'ils perçoivent pas la crise, parce qu'ils la perçoivent parfaitement. Et ils veulent peut-être pas la voir. Ils veulent peut-être aller regarder ailleurs, mais la voient la crise. Aussi bien qu'en France, ils la voient la crise. Et ils voient que le chômage augmente sans arrêt. Ils voient que dans les hôpitaux, le service des hôpitaux diminue de plus en plus. C'est très évident, ça. Et ce que vous faites, c'est vous devriez, si je peux suggérer quelque chose, organiser le mouvement de la rouge, parce que c'est ça l'orientation, la seule orientation que nous avons actuellement au Québec ou ailleurs, c'est de construire le mouvement pour donner un support à la Rouche et au Sénat américain. Je ne sais pas comment vous organisez, quels sont vos slogans, quels sont votre approche au Québec. Il y a longtemps que j'ai pas vu, que j'ai pas parcouru ça. Mais je doute qu'elle soit orientée à l'avantage de l'autre. Je donne par exemple, dans le champ, dans le field, il y a beaucoup de tiraillements. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, bien, moi, j'aimerais mieux faire du travail en bibliothèque, faire de la recherche au lieu de faire du champ, au lieu de faire du field. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils disent ça parce que il y a une différence entre faire le champ et faire la recherche. Et il n'y a aucune raison de faire une différence entre la recherche et le travail dans le champ, dans le field. Pourquoi? Parce que dans les deux secteurs, il est nécessaire de changer les axiomes. Et le problème, c'est que vous n'organisez pas sur la base de changer les axiomes. C'est ça le problème. L'une dit souvent, allez dans la rue, mais n'allez pas dans la rue tout simplement pour quitter de l'argent. Écoutez, moi, j'avais en horreur d'aller dans la rue pour quitter de l'argent. Ça ne m'intéressait pas. Pas que l'argent n'était pas nécessaire, mais je n'aimais pas quitter. Et la raison pour laquelle je bloquais sur l'argent, c'est que je voyais ça inquiétude. Au lieu de répondre à la question de l'une lui disait, aller dans la rue pour faire une expérience. Et qui était l'expérience avec les gens, une expérience qui est nécessaire à leur survie. Alors, faire des expériences avec les gens sur les axiomes des gens, briser les axiomes des gens. Et l'expérience, c'est toujours la même, c'est briser les actions. Et vous savez très bien que la population est complètement névrosée dans la circonstance actuelle. Ça ne peut pas vous donner la tête.
Yeah.
Alors dites-le, écoutez, si comme les Français par exemple, si vous votez Sarkozy, vous serez Sarkozy-gouillé. Vous allez le faire Sarkozy. Faites du théâtre de rue, par exemple. Allez faire du théâtre de rue, comme ils ont commencé en France également. Prenez-vous à Martin au gouvernement. Fini le sous-marchisme des martinistes. D'ailleurs, c'est des martinistes. C'est des sous-marchistes. Et c'est comme ça que vous aurez compris qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre faire du travail de recherche et faire du travail dans la rue. Les deux consistent à expérimenter avec la population et briser les axiomes.
Dr. Pierre?
Oui?
Ben, tu as parlé des grandes idées de la création de l'Assemblée nationale.